On va prendre comme base ce petit texte, cette sadhana concise d'Amitabha, qui peut être donc pris pour une pratique à part entière d'Amitabha. On va s'en servir pour faire une accumulation de mantras.
Oui.
Et ensuite, elle va servir de socle pour le poids associé avec Amitabha. Où on va être sous l'aspect de Shenazi, Amitabha au-dessus de sa tête, et ainsi de suite. Donc avant de faire un poids, le plus important, c'est la génération de l'aspiration. Aspirer. Et ensuite, qu'est-ce qui est important? C'est de déterminer clairement à l'esprit l'objectif de notre aspiration. Parce que souvent, une aspiration peut être simplement « je veux être heureux ». Je veux obtenir le bonheur. Mais après, il faut avoir une conception claire de ce qu'on entend par bonheur. Donc dans la voie spirituelle, on met beaucoup l'accent sur une direction. Et une direction, ça a deux sens. Il y a le sens qui est derrière nous et le sens qui est devant nous. Donc je reprends les bases. Il faut savoir à quoi on dit non, pour au moins éclaircir à quoi on dit oui, et ainsi de suite. Quand on dit oui, il faut savoir à quoi ça... qu'est-ce que ça implique comme renoncement, ce oui. Et ce renoncement, à quoi il implique avec l'aspiration, et ainsi de suite. Il faut une direction, d'accord ? Et cette direction a deux sens. Grosso modo, on va dire renoncement, aspiration. Donc même si on dit aspiration, c'est sous-entendu renoncement. Il faut savoir à quoi on a dit non. Dans renoncement, il faut entendre non, pas se renier ou se priver de quoi que ce soit. C'est à quoi on dit non. Et le Bouddha Sakyamuni, dans la deuxième noble vérité ou réalité, il dit on renonce à l'illusion. D'accord ? Dans la première noble réalité, il dit on constate dukkha. Parce que c'est ce dukkha qui va nous booster. La considération de dukkha. Ensuite, ce dukkha n'est pas fatal, il est causal. Et la cause de ce dukkha, c'est toute une suite de causes. La plus absolue, la plus fondamentale, c'est l'ignorance de la nature de l'esprit. Ensuite, les illusions, la discrétion, la soif, la saisie, les kleshas, les perturbations ensuite qui en sont conséquentes. Donc, c'est bien beau de dire « oui, je vais être heureux ». Ben oui, c'est inhérent, c'est un moteur, c'est le moteur de l'être. Même un masochiste pour être heureux, d'accord ? On n'échappe pas à ce moteur inhérent de l'être. Même quelqu'un qui se suicide, qui se détruit, enfin, porte atteinte à sa vie corporelle, c'est pour être heureux. Mais par un renoncement, en voulant exterminer sa souffrance. Et c'est là où, des fois, pour certaines personnes, ils ne savent pas réellement à quoi ils disent non. Ils veulent juste cesser la souffrance. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Résoudre la souffrance, bah oui, on prend un aspro, on prend des compensations, et puis éventuellement, on va au pire, le suicide éventuellement. Je ne veux pas souffrir. C'est très important d'énoncer les quatre nobles vérités, quatre nobles réalités, si tu veux. Donc ne jamais oublier, même si on ne s'est pas dit, quand on dit aspiration, c'est une direction qui se dessine par deux sens. À quoi on dit non, à quoi on dit oui. Et il faut toujours faire une analyse qui fait la navette des deux. Si on ne fait que dire non, on renonce. J'appelle ça les gris, les ternes. Et finalement, ça tourne à la privation, toutes sortes de privations, d'interdits, après ils rajoutent religieux pour faire bien, c'est des interdits, ça n'a aucun sens, d'accord, en soi. Si ça ne stimule pas l'aspiration, l'aspiration c'est de l'appétence, c'est oui, c'est... Et dans oui, avec oui, je veux dire, il y a jouir, il y a oui dedans. C'est-à-dire c'est jouir de notre intelligence, jouir éventuellement de la vie, mais jouir aussi des moments qu'on va appeler la mort. On va en jouir, on va en user. Donc dans l'aspiration, c'est un terme fort. Il y a des personnes qui se refusent à se dire oui, ce oui, l'appétence, parce qu'ils estiment que c'est une faute, ou voilà, etc. Alors, il faut toujours analyser, se voir, estimer que c'est une faute. Mais ensuite, comment jauger, faire une balance, une tempérance? C'est peut-être possible qu'un oui peut être une faute, un tendre à. D'accord? Eh bien, c'est analyser. Oui, mais quelle est la dialectique qu'il y a dans ce oui? Ben, il y a un non. Mais à quoi je renonce finalement? Si c'est juste renoncer à des pâtisseries, à une blonde, à un brin, à vivre, ça fait bizarre. Donc, une analyse est très importante, hein, de voir cette dialectique entre renoncement, aspiration, oui, non, etc. Et une direction va se dessiner, un rail. Et c'est ça l'intérêt de, on dit le refuge, c'est que ça nous place sur un rail. Quand on a ce rail, hein, et cette capacité de discernement, eh bien, on ne peut pas retomber en arrière. Donc, aspirer ici, hein, à travers la pratique de Poa, c'est aspirer à renaître en Dewachen. Si on ne peut pas le faire de son vivant, essayer de le faire au moment crucial de la mort. C'est un moment privilégié. Mais on n'a pas le droit à se rater, quoi. On se rate, ben, il y aura le bardo de devenir éventuellement. Ou alors, et je suis un peu rapide, s'il n'y a pas le Poa, ça ne marche pas avec le Poa, eh ben, on a le yoga de la clair-lumière. Mais si on a déjà raté le Poa, le yoga de la clair-lumière est beaucoup plus subtil, plus difficile. Mais pourquoi pas, hein? Et puis le yoga du bardo, du devenir. On a toujours la capacité de se rattraper. Rien n'est fatal. Et puis si on rate le bardo du devenir, on peut éventuellement se libérer au moment de la renaissance. Se libérer au moment de la renaissance, c'est pas échapper à une renaissance. C'est associer ce qu'on appelle le gulu, le corps illusoire. Ne participer à aucune identification illusoire au moment où on va se corporaliser, si j'ose dire. D'accord ? Et donc, s'entraîner avec le yoga du corps illusoire, bah, ça sera pour le moment de la renaissance. Avec le yoga du corps illusoire, on s'entraîne à maîtriser la renaissance. C'est-à-dire la phase de génération où on commence à s'identifier. Alors, toute la journée, on fait ça. Donc, il y a des phases d'identification, de génération d'une identification, pardon. Il y a des phases de résorption, etc. Et puis, hop, on reprend. C'est une respiration constante. Alors, soit c'est une identification égo d'une entité en soi, soit on s'entraîne à générer des qualités inhérentes à travers le tantra, les divinités éventuellement, ou simplement une attitude, une qualité à générer. En général, les expériences de Gulu, enfin pour ce que j'ai pu entrevoir, c'est au moment où on sort du sommeil. Alors, soit ça glisse dans le rêve, ou alors on se réveille. Hein, et ben, on a changé nos réflexes de génération de soi. C'est ça, on voit des signes vraiment que la pratique a été imprégnée, quoi. Et ça, ben, ça peut être une chance. Si on a loupé le Poa, clair lumière et le yoga du bardo du devenir, eh ben, on a encore une chance de s'éveiller au moment de la renaissance. Mais on ne met pas en cause de renaître. On met en cause qu'est-ce qu'on projette dans cette renaissance. Si on justifie nos kleshas émotionnels, nos mécanismes d'illusion, effectivement, on va renaître, alors dans ce cas-là, dans les enfers, machin, etc. Donc chaque gars ont leur mot à dire. Inspirer à des watchers. Donc on a parlé d'Amitabha, bien cerner ce que veut dire Amitabha. À chacun de voir aussi. Il y a des personnes qui aiment bien simplement avoir une vue de croyant, qui a une entité supérieure, Amitabha. On ne va pas chipoter si on a cette croyance, pourquoi pas. Si ça peut ne serait-ce qu'échapper au samsara. Donc la foi peut permettre d'échapper au samsara. S'il y a réellement, dans ce mot foi, une attitude, on se transcende, on sublime. Parce que si c'est juste pour déléguer et attendre que Amitabha vienne nous sauver, là, il y a ce système de délégation ne sublime pas notre existence. On ne se sublime pas dans une qualité. Non, la foi est incompatible avec l'égocentrisme, avec son inquiétude de ce « donc je suis, j'existe, tu m'aimes, donc j'existe ». Si on fait ça avec la foi, Amitabha m'aime, hein, puisque je l'aime, il va m'aimer. Il peut y avoir ce mécanisme infantile, de délégation, etc. On dégénère, quoi, enfin. Et les adultes qui fonctionnent dans des affects d'enfants, hein, etc. Et puis même, arrivé à un certain âge, tu m'aimes plus, je te haïs, on se croirait retrouver un cours de récréation, hein, même à des personnes d'un certain âge. Hein. Et là, effectivement, le mot foi, c'est pas parce qu'ils utiliseront la foi que c'est réellement un facteur mental vertueux. Mais qu'est-ce qu'on entend par foi? C'est pour sublimer nos identifications égocentriques. Derrière le mot foi, il y a absence de peur. Pourquoi? Parce qu'on ne se soucie plus de se construire, de se solidifier dans notre référentiel égocentré. On s'ouvre, simplement. Donc effectivement, il peut y avoir des personnes qui ont cette conception et ça peut marcher pour se libérer du samsara. Maintenant, avec les vœux de Bodhisattva, ce serait intéressant de combiner cette aspiration, renaître en Devachan, pour pouvoir aider les êtres. Et dans ce cas-là, eh ben, c'est Devachan devient comme une université de Bodhisattva.
Mais Devachan, ce n'est pas un lieu.
Non, bien sûr.
Comment on pourrait. Enfin, certains pensent que c'est un lieu, un paradis, quelque part.
Non, c'est une sphère d'expérience.
Une sphère d'expérience.
Une sphère d'expérience qui est générée par ton processus mental, par le samskara, si j'ose dire, par ton activité mentale, tu génères des facteurs mentaux vertueux et ensuite les domaines d'extension vont être le reflet de ton attitude d'esprit. Voilà. Machikladrun dit à son fils, qui revient d'une méditation, qui revient du samadhi, et il dit, dans le samadhi, j'ai réalisé la terre pure d'Amitabha. Il dit, c'est bien, c'est une bonne démarche. Maintenant, il faut que tu puisses comprendre qu'ici et même, c'est Devachan. Et elle dit, moi-même, moi ici, je vois, je suis en Devachan. Là, ici, maintenant. C'est-à-dire que ces facteurs mentaux, ces agrégats, etc., sont épanouis en pleine intelligence, d'accord, en santé mentale. D'accord, et donc, les apparences lui sont loisibles. C'est tout. C'est Devachan. C'est doté de félicité. Tout ce qui advient à l'esprit est doté de loisibilité et tu sais en jouir. Donc on peut avoir des expériences en samadhi, on peut avoir des expériences en yoga du rêve. C'est sympa le yoga du rêve parce qu'il faut avoir un conte d'enfant ou le sentiment du paradis perdu. On part comme ça. Moi j'étais parti sur un moment, réminiscence d'enfant, un jardin, des fleurs. J'ai jamais eu ça parce que j'ai vécu en banlieue, dans une cité. Mais c'est un archétype, les fleurs, les jardins, etc. Et j'ai profité du yoga du rêve pour avoir la perception, construire que c'est cela, des Wajen. Ce sentiment de tranquillité, de répit, hein, voilà, etc. Tu peux t'établir en confiance. Et hop, et puis après, tu as une vision très archétypale, hein, de Devachan, Amitabha, et ainsi de suite. Hein. Mais c'est des expériences, oui, archétypales. Hein. Après, il faut aller au plus loin pour savoir que ça participe de quelque chose qui ne peut pas être vu, mais qui relève de la nature de l'esprit, bien sûr. C'est fondé quand même. Mais ça ne peut pas être vu comme un Bouddha rouge, et ainsi de suite. Mais ces images tantriques, des représentations tantriques, c'est des icônes qui sont des intermédiaires, on dit sambhogakaya, hein, qui est c'est un spectre d'aspects qui relève d'une qualité qui ne pourra pas être vue. Dans l'enseignement soufi, l'enseignement contemplatif de soufi, on parle de cette manière-là aussi, c'est-à-dire il y a l'aspect théophanique, donc phanie ça veut dire apparaître, on pourrait dire kaya, nous, hein, kaya c'est un écosystème, une loi qui régit, d'accord, en vertu de la vacuité, c'est dharma kaya, en vertu de la vacuité des phénomènes, d'accord, il y a une loi qui régit. Et bien, dans le soufisme, on parle de théophanie, c'est-à-dire tout ce qui apparaît du point de vue de Théo, Dieu. Eh bien, c'est l'invisible. C'est de l'ordre du mystère. Mais c'est de l'ordre de l'unité. Dans la carrière, c'est pareil. Mais on peut le réaliser en quoi c'est invisible. Hein, c'est la même chose que clair-lumière. Dans Dieu, il y a Di hein, qui veut dire lumière. Hein. Donc l'aspect théophanique, hein, ça ne peut pas être vu. Et c'est cela même, le fait de réaliser, c'est que ce qui est invisible ne deviendra pas visible. Il sera su comme étant un mystère, et de quoi il est, en quoi il est mystère, c'est-à-dire indicible, infini, etc. Ensuite, dans la voie contemplative soufie, même s'il se passe de forme humanoïde, parce que ça c'est banni, hein, mais c'est simplement des attitudes. On peut concevoir des attitudes, ça suffit, hein. Le tantra est une science très tardive, hein, qui est du 11e, 12e siècle, qui utilise des formes anthropomorphiques. Hein. Et ça peut apporter à une confusion aussi. Hein. Mais après, il y a l'intermédiaire. Alors, il y a l'aspect théophanique qui rêve du mystère et ça doit rester comme tel. Il faut que respecter le mystère. Et ensuite, il y a l'aspect épiphanique. Dans la contemplation soufie, épiphanique, c'est une apparition, l'ordre de l'apparition, épiphénomène. C'est un épiphénomène qui fait que le mystère prend un aspect. Nous, ça s'appelle nirmana, c'est-à-dire s'aspecter. Un nirmana, c'est le fait que l'apparence, d'accord, l'apparentialité, la loi des apparences, prennent des aspects. Et ces aspects sont épiphénoménales. Épiphanique. Et donc, nous, dans le tantra, ben, on prend une épiphanie de la compassion, et on va faire blanc, quatre bras, etc., qui n'est pas arbitraire, c'est une science de la symbole, de l'archétype, etc. Et dans la contemplation soufie, on parle de théophanie, l'épiphanie, et pour joindre les deux, on a ce qu'on appelle l'archétype image. Et c'est vraiment ça, la science tantrique aussi, jouer avec un archétype image. Il y a une sorte d'universalité, même si ça ne sera pas toujours un Bouddha bleu-rouge pour des soufis ou des chrétiens, mais il y a une charge universelle quand même. La charge que ça relève de la compassion, de la sagesse, et ainsi de suite, de l'intelligence, de la qualité de l'esprit. Donc, à quoi on aspire en Amitabha? Il faut bien le cerner intellectuellement, se le faire expliquer si on ne comprend pas. Et si l'enseignant ne sait pas l'expliquer, ben, demande à plusieurs enseignants. Il faut avoir beaucoup d'enseignants. Je dis souvent, il faut avoir plein de sons de cloche. Quelqu'un qui te dit, tu es mon disciple, tu restes mon disciple, non, va pas voir celui-là, tu changes de la main. Enfin, moi, j'ai jamais eu ça. Même si tu as une pochée, il me dit, vous avez plein de lamas. Allez-y, hein, c'est comme des garagistes, hein, vous faites des devis, hein, non c'est vrai, hein, et puis après, chacun aura son apport éventuellement, d'accord, c'est pas dire il y en a un qui est dans le vrai, l'autre dans le tort, etc. On est à une époque où on peut estimer que tous les lamas sont authentiques, hein, je sais pas, on va pas faire de procès d'intention aux lamas, même s'il y a des désaccords éventuellement entre les centres. S'il y a un désaccord entre les karmapas, l'enseignement de tel karmapa est authentique. Il ne faut pas se prendre le chou, hein, d'accord. S'il y a des problèmes avec d'autres rinpoches, leur enseignement est authentique. Celui qui ferait un procès d'intention d'authenticité, là, il est mal barré. Ce qu'il faudrait, alors dans ce cas-là, sur quelle base tu te dis plus authentique que quelqu'un? Alors là, on rentre dans vraiment le fanatisme, l'inquisition, etc. Ça peut arriver. Alors là, il faut bien le déceler. Mais on peut avoir des désaccords philosophiques, pédagogiques, etc. Mais enfin, c'est normal de ne pas mettre en cause l'intentionnalité. Tout le monde peut faire des erreurs éventuellement, tu vois. Et même le Dalma peut estimer, je suis sûr qu'il peut estimer qu'il peut avoir faire des erreurs dans l'énoncé d'un concept, etc. Aspirer à renaître en Dewachen et faut pas se forcer à rentrer dans le moule de la conception du lama. Moi j'ai une conception bien, bien stricte, d'accord, etc. Plutôt dans le rationnel, hein, la contemplation rationnelle, avec ses, voilà, ses valeurs associées à l'abhidharma, c'est à la phénoménologie bouddhique. Mais après, on peut se référer au sutra, à la géographie, donc il ne faut pas se faire violence non plus. Il faut trouver ce qui fonctionne en nous, qui nous donne appétence, mais toujours, bien sûr, le devoir, en tant que bouddhiste, pour un premier refuge, de s'entraîner aux trois entraînements. Appliquer les trois entraînements. Écoute et étude, c'est un entraînement. Faire user de réflexion, analyse, ça c'est dans un des vœux quand on prend refuge, comme on dit, hein, d'accord, on fait la cérémonie de refuge, on a le devoir d'avoir une conviction personnelle. Ne jamais croire l'enseignant. Ne pas se référer à l'enseignant non plus pour ce qu'il est, etc. etc. D'accord. Mais se faire son opinion personnelle et adapter le dharma à sa vie et pas l'inverse. Ça, c'est des devoirs de bouddhiste. Et ensuite, le troisième entraînement, c'est la méditation. C'est-à-dire, par méditation, on veut dire s'habituer à un recueillement pour faire expérience et non pas juste une conviction. C'est bien avoir des convictions, hein, ça rôde l'intellect, ça étaye hein, notre vie, etc. Enfin, notre raisonnement, voilà, ça forge des certitudes. Mais passer par l'expérientiel, c'est ça qu'on veut dire par méditer. Donc, s'appliquer aux trois entraînements.